Et vous, c'est quoi votre...
Ça marche comme ça? Vous m'entendez?
Et vous, c'est quoi votre sujet?
Non, non, c'est nickel, c'est carré, monsieur. Bravo. Eh ben, merci. En plus, dans les temps, c'est vraiment nickel.
Ah, c'est vrai, vous entendez, là?
La classe de 606 du lycée Berthelot à Toulouse vous présente leurs enquêtes autour de la notion d'adelphité. Un travail accompagné par Emmanuel Deniaux et la radio Canal Sud.
Bonjour, bienvenue sur Canal Sud avec la classe de 606 première générale du lycée Berthelot. Qui va présenter successivement par petits groupes le travail réalisé cette année autour d'une exploration autour de l'adelphité. Alors l'adelphité, c'est un terme employé depuis quelques temps pour ne pas rester sur une vision masculine de la fraternité, puisque la fraternité, par définition, à la base, ça concerne principalement... les hommes, et donc l'idée, on pouvait faire fraternité, sororité, et en fait adelphité, c'est un mot donc d'origine grecque qui permet de lier tous les genres dans une solidarité. Et donc les élèves ont travaillé sur cette idée, cette question, comment on peut développer l'adelphité dans notre société, chacun dans des thèmes variés. Donc on va commencer avec un groupe autour de l'adelphité et de l'éducation. Hugo, c'est ça?
C'est exactement ça.
D'accord. Donc, on aura avec Hugo Nicolas, Jules.
Bonjour.
Et Louise.
Bonjour.
Qui ont travaillé, pas tous ensemble tout à fait. Louise a travaillé avec sa camarade Elisa, qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce matin. Et puis, Jules et Nicolas et Hugo ont travaillé ensemble. Mais ils avaient des thèmes assez proches. Hugo, peut-être tu peux nous présenter rapidement, vous, quel était votre thème, votre problématique, votre...
Oui, alors notre thème, c'était l'adelphité et la fraternité en éducation. Donc notre but, c'est de montrer l'égalité entre les sexes, donc masculin, féminin et non binaire.
D'accord, dans l'éducation, c'est
dans
ça
l'éducation,
c'est comment ça peut se développer dans l'éducation.
C'est oui, ça c'est exactement
okay.
ça.
Et toi, Louise?
Du coup, nous, de notre côté, on a travaillé plus sur les discriminations au sein de la scolarité, et plus particulièrement par rapport aux classes sociales et au milieu social auquel on peut appartenir.
Ok. Donc nous allons commencer les questions. Donc Louise, pourquoi avez-vous choisi de travailler sur le thème des discriminations à l'école?
Alors déjà, je dirais que ce thème-là, c'est un thème qui nous tenait à cœur parce que on voit que les discriminations, elles sont très présentes aujourd'hui. Et elle se développe de plus en plus au fil du temps. Et ça concerne surtout de nombreux élèves. Et pour nous, c'est un sujet qui est quand même très important parce que ça touche au respect, à l'égalité et surtout au bien-être de chacun. Donc c'est important pour nous de travailler sur ce sujet et de mieux comprendre aussi leur cause et de réfléchir aux moyens de combattre ces discriminations. Moi je voulais savoir pour vous, est-ce qu'on peut vraiment apprendre la fraternité à l'école?
Alors oui, on peut, mais c'est pas automatique. Par exemple, il y a une étude qui a été faite sur 22 écoles primaires qui ont mis en place ensemble un programme de vivre ensemble. Ils ont observé que même quand toutes les écoles suivent le même programme, les résultats sont très différents. Certaines équipes s'y investissent vraiment et inventent des projets concrets, alors que d'autres font le minimum, ou même résistent carrément. Donc la fraternité à l'école, c'est possible, mais ça dépend entièrement de comment les adultes s'en emparent. C'est pas une affiche dans le couloir qui va changer quelque chose.
D'accord.
Et alors cette étude, elle m'a beaucoup intéressé, Nicolas. En fait, là, vous avez travaillé vraiment sur comment eux-mêmes, les enseignants, peuvent eux-mêmes travailler dans l'adelphité, c'est ça, pour apprendre l'adelphité aux élèves, c'est ça. Comment l'étude, elle portait sur la coopération, c'est ça, entre les enseignants pour amener les élèves eux-mêmes à coopérer.
C'est ça.
D'accord. Et alors du coup, qu'est-ce que tu as retenu un petit peu autour de ça, de cette coopération entre les enseignants? Ça marche pas? Il y a des modèles qui fonctionnent mieux que d'autres?
J'ai une autre question sur ce sujet après qui arrive, mais en gros, c'est pas que les enseignants qui ont ce rôle, c'est aussi les parents à la maison. Parce que si à la maison il n'y a pas de respect et tout, à l'école ça va pas suivre. Donc c'est un rôle des enseignants, mais aussi surtout à la base des parents.
D'accord. Je vous laisse continuer.
Donc, Louise, qu'est-ce qu'une discrimination selon vous ?
Nous, avec Elisa, du coup, on a travaillé sur les discriminations et on s'est rendu compte que, en fait, c'était surtout le fait de traiter une personne souvent différemment et injustement par rapport à d'autres personnes, soit par rapport à cause d'une caractéristique comme son origine, son sexe, son apparence physique, sa religion, son handicap ou son milieu social, comme nous l'avons travaillé plus spécifiquement. Et on s'est rendu compte que ça pouvait créer des inégalités et ça peut aussi exclure certaines personnes de certains groupes.
Ok.
Pourquoi la Delphité, selon vous, elle est une valeur essentielle dans l'éducation aujourd'hui ?
Déjà, la fraternité, elle est essentielle parce qu'elle permet de faire vivre dans l'éducation les élèves de manière égale, quelle que soit leur classe sociale, leur origine ou n'importe quoi. Et donc, la fraternité, et notamment la Delphité, elle est présente dans la devise française, et sans liberté, égalité, elle ne peut pas fonctionner, c'est-à-dire que on peut être libre et égaux en droit, mais si on ne se respecte pas les uns les autres, ça ne va pas marcher. Et donc ça commence à l'école, dans l'éducation, puisque l'école, elle permet de former les futures personnes qui vont constituer notre société. Et donc, ça va permettre d'influencer notre société future. Et donc, elle va permettre un respect mutuel et de l'entraide afin de mieux coopérer.
Quel type de discrimination rencontre-t-on le plus souvent au milieu scolaire ?
En milieu scolaire, on a vu qu'on rencontre souvent des discriminations qui sont liées à l'origine, à la couleur de peau, au handicap, à l'apparence physique, mais surtout au milieu social du coup. Et on a vu que ça se manifestait surtout par des moqueries, de l'exclusion, des stéréotypes qu'on peut avoir souvent. Et même parfois, ça peut aller jusqu'à du harcèlement. Moi, j'aimerais savoir, selon vous, comment on peut encourager la solidarité plutôt que la compétition entre les jeunes ?
Donc, pour encourager la solidarité, au lieu de la compétition individuelle, il est nécessaire de repenser la manière dont on valorise les jeunes, que ce soit à l'école, dans les clubs de loisirs ou au sein de la famille. Donc cela repose sur deux leviers essentiels. La mise en place de structures coopératives, donc plutôt que de proposer des systèmes de notation ou de récompenses basés sur des classements individuels, il convient de privilégier les projets plutôt collectifs, en groupe, dans le sport ou dans les travaux scolaires. Donc l'objectif doit être que si un membre échoue, c'est tout le groupe qui stagne et qui échoue. Et cela pousse donc les jeunes à s'entraider et à prendre soin des plus fragiles et les aider.
D'accord.
Moi j'ai une question, Louise. Oui. Tu peux nous dire un peu sur quoi... je crois que c'est toi qui as travaillé sur un projet photo autour de la discrimination. Tu peux nous en parler un peu et quel était le but de ce projet
Alors oui, du coup moi j'ai travaillé sur un projet qui était un concours photo pour lutter contre les discriminations. Donc c'était surtout un concours qui était fait dans les écoles pour que les enfants puissent... en fait, prendre en photo des choses qui leur faisaient penser au thème des discriminations. Et après ça, donc, il y avait un jury qui examinait les photos pour voir laquelle pouvait le mieux représenter cela, que ce soit parfois même de façon un peu abstraite. Et voilà, en fait, c'est un moyen aussi pour les élèves d'être vraiment concernés par ça et de et d'explorer ce thème de façon ludique aussi.
Et dans ce projet, il me semble qu'un des objectifs importants, justement, c'était pas seulement le projet lui-même, enfin les photos elles-mêmes, mais la façon de faire travailler les élèves.
Oui, tout à fait, parce qu'ils travaillaient surtout par groupe. Et dans ce projet-là, ils avaient énormément de liberté, que ce soit au niveau des temps de parole ou au niveau de la créativité par rapport aux photos qu'ils pouvaient prendre. Et voilà. Okay.
Quelles sont les conséquences des discriminations sur les élèves qui en sont victimes dans l'éducation?
Il peut y avoir plusieurs conséquences qui peuvent être assez importantes parfois pour les victimes. Ça peut entraîner déjà une perte de confiance en soi, du stress beaucoup, de l'isolement, de l'anxiété et aussi parfois une baisse des résultats scolaires. Donc certaines victimes, elles peuvent même parfois perdre l'envie de participer à la vie de l'établissement ou de s'investir au sein de son parcours scolaire. Et donc, c'est vraiment des conséquences qui sont quand même assez néfastes et qui peuvent entraîner après des choses parfois plus graves. Selon vous, pourquoi les enseignants, ils ont du mal à mettre en place des projets sur le vivre ensemble?
Alors pour moi, ils ont du mal parce que ce n'est pas vraiment pourquoi ils sont formés au départ. Par exemple, un prof de maths sait enseigner les maths, mais personne ne lui a vraiment appris à gérer la solidarité dans sa classe ou même à monter un projet collectif avec d'autres collègues. Et en plus, ils sont souvent surchargés, donc ce n'est pas forcément un manque de bonne volonté. Mais c'est surtout un manque d'outils ou de temps.
D'accord. Merci.
Et est-ce que, dans votre exploration, là, vous avez rencontré une association? C'est okay. Ben, je vous demande aux deux groupes.
Oui, nous, on est allé rencontrer une association. J'ai plus tout à fait le nom en tête, mais c'était une association qui était vraiment... axé sur les discriminations justement au sein de la scolarité. Et donc on a pu les rencontrer.
C'est l'école Inou à Bellefontaine, non, c'est ça? C'est pas ça?
J'ai plus tout le nom.
L'école Inou, je crois.
Ouais, peut-être. Et du coup, ils ont pu répondre à certaines de nos questions. Et c'était super intéressant parce qu'on a eu aussi des témoignages dont on ne pouvait pas forcément se douter de choses qui peuvent arriver. On s'en rend pas forcément compte. Et donc, c'était très enrichissant de pouvoir les rencontrer.
Tu as un exemple, par exemple, de témoignage ou un souvenir de quelque chose qui était fort sur une discrimination ou peut-être sur un... de ce que ces gens t'ont dit? Non.
Pas de mémoire, mais après, c'est surtout les discriminations que peuvent... En fait, moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est le fait que... les enfants, même en bas âge, enfin dans les écoles primaires et tout ça, peuvent être méchants entre eux. Et moi, j'étais surprise que ça arrive si tôt au niveau des âges. Et après, ça s'amplifie forcément avec les années. Mais c'est ça qui m'a le plus marqué, je dirais.
D'accord. Bien. Est-ce que vous voulez conclure? Est-ce que vous voulez apporter d'autres choses? Est-ce que vous aviez fini de dire tout ce que vous vouliez dire?
Quelques questions.
Allez-y.
Ok. Donc, Louise, quel rôle les enseignants et l'établissement peuvent-ils jouer, selon vous, pour lutter contre ces discriminations dont tu nous as parlé?
Alors, pour moi, donc les enseignants et aussi l'établissement... ils ont un rôle vraiment essentiel parce que déjà ils doivent sensibiliser les élèves au respect des différences, intervenir rapidement aussi si une situation se met en place ou dégénère, notamment une situation discriminatoire. Ils peuvent aussi mettre en place des projets éducatifs qui peuvent favoriser l'inclusion, l'égalité. Et ils peuvent aussi organiser quelques activités ludiques comme le concours photo ou d'autres activités qui peuvent justement sensibiliser les élèves. Moi, je voudrais savoir pour vous, comment la fraternité, elle se voit concrètement dans une classe?
La fraternité dans une classe se voit dans les petites actions du quotidien. Par exemple, quand un élève aide un autre à comprendre un exercice ou quand un groupe accepte d'intégrer quelqu'un d'autre qui se sent seul, ou quand les élèves s'écoutent sans se couper la parole. Elle se voit aussi dans la manière de régler les conflits en privilégiant les discussions plutôt que les insultes ou les violences. Une classe fraternelle est aussi une classe où les élèves se sentent en confiance, où ils savent qu'ils ne seront pas jugés ou rejetés par les autres groupes, alors parce qu'ils font des erreurs. Et cela crée donc un climat plus calme et plus favorable aux apprentissages des élèves.
D'accord, merci.
Louise, encore une question. Quelles solutions ou actions concrètes proposez-vous pour réduire les discriminations à l'école?
Déjà, moi, à mon échelle, je pense que je pourrais pas régler toutes les discriminations, mais si jamais j'avais le pouvoir de vraiment changer les choses, je pense que je proposerais déjà d'organiser plusieurs activités et des ateliers aussi de sensibilisation, des débats, des projets collectifs aussi autour de l'égalité, parce que c'est assez important, et aussi autour du respect. Après, je pense que c'est aussi important de valoriser la diversité, d'encourager l'entraide entre les élèves et de sanctionner aussi les comportements discriminatoires, parce que c'est pas toujours le cas. Et je pense que aussi chacun doit être sensibilisé et encouragé même à signaler les situations injustes qu'ils peuvent voir ou auxquelles parfois ils peuvent participer. Et voilà.
T'étais pas dans le phare, toi?
Non.
Louise?
Cette D'accord. année, je n'ai pas participé.
Aucun de vous n'était dans le phare? Ah oui, mais t'étais l'année dernière.
Non.
Non, non plus? Ah oui. Ok. Et le phare, rapidement, c'est le collectif dans les lycées qui associe des élèves, des enseignants, enfin des personnels d'ailleurs, tous les personnels, pour éviter les situations de discrimination et puis de harcèlement. Moi j'avais une petite question. Tu voudrais pas nous organiser un petit théâtre forum l'année prochaine, autour d'un sujet pour favoriser la delphité au lycée, Louise?
Eh bien, pourquoi pas?
Parce que Louise est une grande comédienne.
Oui, effectivement, ça pourrait être une bonne idée à voir. Je vais y réfléchir.
Magnifique. Vous voulez rajouter quelque chose? Vous n'avez pas fini?
Moi, j'avais une petite dernière question pour Louise. As-tu un message que tu aimerais transmettre aux élèves et aux adultes qui nous écoutent?
Oui, du coup, avec ma camarade, on avait réfléchi à ce qu'on pourrait transmettre. On aimerait surtout rappeler que chacun mérite d'être respecté, quelles que soient ses différences, et qu'on a aussi tous la responsabilité de lutter contre les discriminations en refusant d'être confronté aux préjugés, en aidant les personnes qui peuvent être victimes d'injustices, et en favorisant aussi le dialogue, parce qu'on pense vraiment qu'ensemble, le fait d'être solidaire entre nous, ça peut aider à construire une école qui peut être plus juste, plus inclusive et aussi plus respectueuse pour chacun.
Moi, je pense que pour avoir vraiment une adelphité dans l'éducation, il faut faire varier les différences entre les élèves, on va dire, comme les milieux sociaux, des choses comme ça, et surtout instaurer des pratiques qui peuvent aider les élèves à ne plus se sentir seuls ou spéciales. Notamment par exemple les IPE2A pour les élèves qui ne parlent pas français, qui ne sont pas francophones, ou alors les AESH, ou alors tout simplement favoriser des activités en collectif à l'école.
Merci beaucoup, c'était très bien, merci.
De rien.
Et on va passer avec le deuxième groupe.
autour de la table, on a Louise et on a Inès dans le même groupe. On a Atom et Florent dans un même groupe. Et ensuite, on a Kenza, Iba et moi-même.
Ok. Qui c'est qui commence, qui voulait poser d'abord des questions un petit peu aux autres Donc, si j'ai bien compris, c'est le groupe de Iba, Alia, Kenza qui va commencer un peu à interroger Inès et Louise, c'est ça l'idée? Donc, Inès et Louise, vous avez travaillé un petit peu plus précisément sur quoi, vous?
Alors, nous, on a travaillé du coup sur l'entrée des femmes et des hommes dans le sport. Donc, est-ce que ça pourrait du coup améliorer au niveau de l'égalité dans le sport, du coup, cette entrée de...
Est-ce que l'entraide entre hommes et les femmes pourrait finalement améliorer l'égalité dans le sport, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ok, ben, je vous laisse la parole.
Donc tout d'abord, notre première question, c'est pourquoi avez-vous choisi ce thème? Alors on a choisi ce thème parce que Louise et moi-même, on fait beaucoup de sport, notamment au lycée ou en dehors. Et il nous arrive aussi de beaucoup pratiquer ce sport mixte, du coup, avec d'autres garçons. Et donc, cette question d'égalité homme-femme dans le sport, ça nous a beaucoup attirés, parce que le sport est présent donc, dans la vie de tous les jours, partout dans le monde, notamment aux JO, etc., dans des grosses compétitions. Et donc, le fait que la diffusion des hommes et des femmes ne soit pas du tout égalitaire, ça nous a beaucoup marqués, et on a voulu, justement, parler de ce sujet.
Et toi, Louise?
Bah, du coup, pareil, comme elle a dit, moi aussi, je fais du sport, et enfin, on fait du sport, par exemple, au lycée, mixte, du coup, et on voit aussi quelquefois que c'est pas super mixte, et que souvent, les garçons se mettent ensemble, par exemple, et les filles, elles se retrouvent toutes seules. Et du coup, cette question-là aussi, elle nous a touchés, et pour essayer d'améliorer la mixité dans le sport, etc.
Qu'est-ce que l'entraide pour vous?
Pour nous, l'entraide, du coup, c'est le fait que donc, plus les hommes vont aider les femmes à être... Oui, pour la visibilité, pour être plus visible. C'est vraiment une aide mutuelle, quoi.
Vous voulez dire que, par exemple, alors, que pour que les femmes soient plus visibles dans le sport, et notamment, par exemple, dans les compétitions, etc., il y aurait un rôle des hommes à jouer vis-à-vis des femmes? Ce serait quoi alors du coup?
Oui, parce que donc ce serait vraiment les hommes d'aider, parce que c'est eux qui ont le plus de visibilité, les salaires, ils ont plus, ils ont un meilleur salaire dans le sport en général. Et donc oui, l'entraide, ce serait que les hommes participent justement à cette visibilité des femmes. Parce que c'est plutôt eux qui regardent le sport, le foot, etc. Enfin, il y a un pourcentage vraiment plus élevé d'hommes pratiquant du sport que les femmes. Et donc, ce serait plus à eux, oui. De...
Et est-ce que vous avez déjà rencontré, dans vos pratiques sportives, un phénomène de sororité pour justement mettre en avant le sport des femmes? C'est-à-dire que est-ce que les femmes entre elles essayent de s'organiser pour mettre plus en avant leurs pratiques, que les gens viennent voir leurs matchs, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, ou est-ce que vous avez vu ça dans votre exploration, là?
Alors, oui, justement, il y a eu les... Je ne sais plus vraiment lesquels, mais les JO, sûrement, il y a longtemps. En tout cas, Alice Maliat. Donc, c'est celle qui s'est battue pour que les femmes participent aux JO. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt une femme qui a aidé à la visibilité des femmes au JO que Tom, mais oui.
Donc, est-ce que l'entraide entre les hommes et les femmes dans le sport est possible encore, enfin, est possible aujourd'hui?
Alors oui, justement, elle est encore plus possible maintenant qu'avant, parce qu'on peut voir des améliorations... actuellement, dans l'entraide des hommes et femmes, par exemple l'association, j'ai oublié le nom, mais il y a une nouvelle fédération pour les femmes dans le sport qui a été créée récemment. Et donc ça montre que l'entraide, elle est toujours possible, et que justement elle s'améliore de jour en jour à partir de maintenant.
Qu'est-ce que l'association que vous avez choisie fait concrètement pour aider à ça?
Du coup, nous, notre association qu'on a choisie, c'est Rugby Diversité. Et justement, elle fait des activités, etc. et tout, avec des sports mixtes, du coup, pour essayer de faciliter ça et essayer de...
D'améliorer la visibilité et même dans le sport. Donc en ce moment, c'est autour du thème du rugby. Donc ils organisent ces événements. Et donc d'essayer dans le sport d'enlever ces stéréotypes de genre. De faire des activités mixtes, notamment le rugby. Donc un sport qui est normalement pas mixte sauf pour les jeunes. Et donc de permettre une meilleure visibilité autour des femmes, une meilleure égalité notamment dans le sport.
Et pour toucher plus de public, ils vont rajouter des sports tels que le basket ou le tennis, le volley, le tir à l'arc, etc. Pour encore plus toucher du public et du coup cette question d'entraide.
Et comment les hommes peuvent-ils contribuer au développement du sport féminin d'après vous?
Donc comme j'ai dit tout à l'heure, les hommes en général, ils sont beaucoup plus dans les sports, ils ont un même pourcentage plus élevé de participants dans les sports, etc. Ils ont aussi plus de visibilité comme le foot, par exemple. Le foot masculin est beaucoup plus... comment je pourrais dire mis en visibilité, et mis en avant, et justement, il pourrait plus aider, ça pourrait matcher.
Ce serait quoi pour vous les raisons qui expliqueraient que le sport féminin, qui commence maintenant à être quand même plus visible qu'avant, mais pourquoi il serait moins... pourquoi il est moins visible?
Parce qu'il y a toujours une mentalité... chez certains, une mentalité qui est des stéréotypes qui disent que, par exemple, les femmes sont moins fortes, avec moins de performance et tout, ce qui est pas forcément, enfin, qui est faux. Sauf que, du coup, il y en a qui ont toujours cette mentalité et qui restent bloquées sur ça, que les femmes sont, qui ont un moins bon niveau, que c'est moins bien à regarder, que c'est moins intéressant. Et du coup, refusent d'avancer et de penser le contraire, alors que, voilà quoi.
Et pour finir, selon vous, quelle est la différence entre l'égalité et l'entraide dans le sport?
En fait, l'entraide, c'est plus le parcours pour arriver à l'égalité. L'égalité, ça va être vraiment un truc égal entre les hommes et les femmes. Et l'entraide, ça va être plus comment on va y parvenir. Et enfin, c'est le parcours pour arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, et vous?
Oui, ça va. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre thème, votre sujet, si vous voulez?
Notre sujet aujourd'hui, c'est les inégalités dans le sport entre les hommes et les femmes.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce sujet, du coup?
Tout d'abord, on a choisi ce sujet pour plusieurs raisons. Dans notre groupe, on a une élève... qui avait déjà travaillé dessus pour son oral du brevet. Donc elle connaissait un peu déjà les bases du sujet. Et ensuite, pour tous les thèmes proposés, c'est celui qui nous intéressait le plus. On trouvait aussi que c'était important d'en parler parce que les inégalités entre les femmes et les hommes dans le sport existent encore aujourd'hui et que c'est un sujet d'actualité et qu'il faut en parler.
D'accord. Du coup, quelle association avez-vous prévu de présenter et pourquoi?
On a présenté l'association La Maison du Sport au Féminin. On l'a choisie parce qu'elle incarne concrètement ce combat. Elle crée un espace où les femmes peuvent pratiquer du sport dans un environnement égalitaire et bienveillant.
D'accord.
Selon vous, qu'est-ce qui empêche les égalités dans le sport?
L'égalité est freinée par plusieurs facteurs. Donc tout d'abord, les stéréotypes de genre qui associent certains sports à une sexualité ou à un type de personne, alors que finalement, il faudrait être un peu plus ouvert parfois.
et même totalement sur le sport et les personnes qui, enfin, tout le monde peut pratiquer, peu importe le sport, enfin, le sport qu'il aime. Et ensuite, le manque de visibilité, ça impacte aussi les sports féminins. Donc, il existe des inégalités de ce fait, et encore sur plusieurs autres points, comme les moyens financiers ou encore le manque d'infrastructures.
Les femmes sont-elles vraiment inégales dans le sport aujourd'hui ?
Oui. Mais il y a quand même de nombreux projets qui ont été réalisés pour combattre cette cause. Elles bénéficient souvent de moins de médiatisation que les hommes, comme on peut le voir dans le foot par exemple, ce qui entraîne également moins de sponsors et de financement, et elles sont donc moins mises en avant. Elles sont aussi moins nombreuses aux postes d'entraînement, d'arbitrage ou encore de dirigeantes, et dans certains sports des stéréotypes persistent encore, et voilà.
Vous faites du sport, toutes les trois ?
J'en faisais beaucoup, mais j'ai arrêté.
Tu faisais quoi ?
Beaucoup de sport.
Différents sports.
Ouais.
Et pourquoi t'as arrêté ? Est-ce que c'est lié à cette question ou pas ? À cette question des inégalités ou de la non-reconnaissance des femmes dans le sport ?
Pas du tout.
D'accord. Ok. Et vous, Kenza et Alia, vous en faites du sport ?
Oui, on en a fait déjà, mais j'ai arrêté.
Okay. Et moi, personnellement, je faisais du judo... avec un assez bon niveau, mais je me suis blessée et du coup j'ai dû arrêter.
D'accord, et dans le judo, je vais le laisser après à Tom la parole, mais dans le judo par exemple, est-ce que tu as ressenti déjà des situations d'inégalité entre les garçons et les filles quand tu en faisais ?
Surtout de la part des entraîneurs, mais sinon il y a quand même une bonne égalité puisqu'il y a quand même assez de femmes qui en font, et il y a une bonne représentation aussi féminine. Dans le judo on voit plusieurs figures. Donc ça permet quand même une certaine égalité dans ce sport.
C'est un sport où il y a peut-être plus d'égalité que dans d'autres sports, c'est ça ?
Oui, il me semble.
Vas-y, Atom, pardon.
Et du coup, c'est quoi le sport que tu faisais, Kenza ?
Je faisais de la natation, okay. Et de la gymnastique.
Et du coup, est-ce qu'il y avait une forme d'inégalité que tu as ressenti ou un sentiment étrange comme ça ou...
Non, pour la gymnastique, c'était que des femmes où j'en faisais. Mais du coup, il n'y avait pas d'inégalité.
Et du coup, est-ce que tu penses que c'est mieux qu'il n'y ait que des femmes dans la gymnastique
Non, je pense pas.
Et est-ce que vous auriez un dernier mot à dire à la future génération qui nous écoute pour pousser justement à plus d'égalité entre les sexes dans le sport ?
Entre les genres, non ?
Donc pour les futurs sportifs et sportives, je pense que le plus important c'est qu'ils fassent ce qu'ils aiment et qu'ils suivent leurs émotions, leur corps et leurs envies, et que en fait le sport finalement ça peut permettre de se sentir bien, mais finalement ça peut aussi être un moyen de pression et de... Et donc il faut vraiment suivre son cœur, sa tête, et faire attention à ce qui est autour, et voilà.
Eh bien merci pour cette petite entrevue, c'était très sympa.
Nous revoilà avec les 606 du lycée Berthelot pour un nouveau groupe qui va nous parler de son exploration autour de la Delphité. Là, on est plutôt autour de thèmes assez différents d'ailleurs. Donc, je vais laisser Salomé et Mélisse se présenter elles-mêmes qui on a autour de la table et quels sont les sujets qui vont être abordés.
Bonjour, nous allons vous parler de l'adelphité. L'adelphité est une valeur qui consiste à considérer toutes les personnes comme égales et à développer entre elles des relations fondées sur le respect, l'entraide, la solidarité et la bienveillance sans distinction de genre, d'origine ou de situation. Cette valeur est importante car elle favorise le vivre ensemble et encourage chacun à se soutenir mutuellement dans notre société actuelle où les inégalités et la discrimination existent encore. La Delphité joue donc un rôle essentiel en renforçant les liens entre les personnes et en contribuant à une société plus juste et plus inclusive.
Absolument. Avec nos deux groupes, nous allons voir que cette adelphité, c'est-à-dire la solidarité, l'entraide, le sentiment d'appartenir à, à une même communauté humaine, est bousculée par deux grands défis de notre siècle, à savoir la transition numérique et la transition écologique. Ces deux transitions sont souvent présentées comme nécessaires. En effet, la transition numérique transforme profondément notre quotidien, car nous communiquons, travaillons, étudions et effectuons nos démarches administratif de plus en plus grâce aux outils numériques. Quant à la transition écologique, elle vise à répondre aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, notamment le changement climatique, la pollution, encore la préservation des ressources naturelles. À première vue, ces évolutions semblent positives. En effet, elles peuvent simplifier nos vies, améliorer certains services et préparer un avenir plus durable. Pourtant, elle soulève aussi des questions importantes. D'un côté, nos vies sont dématérialisées de plus en plus, et de l'autre, nous devons réagir face à l'urgence climatique afin de protéger notre planète et donc les futures générations. Mais cette volonté de progrès, à partir de cette volonté de progrès, ne risque-t-on pas de parfois d'oublier l'humain? Et certaines personnes peuvent-elles se retrouver exclues ou mises à l'écart? C'est donc ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons connaissance avec les intervenants qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Nous accueillons deux groupes qui vont confronter leur point de vue autour d'une même valeur qui est la Delphité. Donc le premier groupe s'est intéressé aux conséquences de la transition numérique, notamment à la manière dont la dématérialisation des services publics peut affecter certaines catégories de la population. Le second groupe s'est penché sur les enjeux de la transition écologique et sur les difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes face aux changements qu'elle implique. L'objectif de ce débat n'est pas de désigner un gagnant ou un perdant, mais de réfléchir ensemble à une question essentielle qui est comment concilier progrès, efficacité et respect de chacun, comment faire en sorte que personne ne soit laissé de côté. Je vous propose maintenant un rapide tour de table afin que nos auditeurs puissent reconnaître les différentes voix des intervenants. Donc nous allons commencer par Badr.
Donc bonjour à tous, moi c'est Badr, donc je suis ravi de participer à cet échange. En tant qu'élève de première, je trouve indispensable de se questionner sur la notion d'adelphité et sur la notion de solidarité républicaine. Et moi j'ai travaillé du coup sur la dématérialisation des services publics.
Bonjour, moi aussi donc je m'appelle Salomé, je fais partie du groupe donc avec Badr qui concerne la dématérialisation des services publics. Donc on a choisi de parler de ce sujet donc en tant que jeune, c'est un sujet qui nous touche particulièrement donc dans l'actualité, c'est pour ça qu'on a choisi de l'aborder aujourd'hui.
Bonjour, je m'appelle Mélisse et je fais aussi partie du groupe sur la dématérialisation et je suis très contente d'être là.
Donc bonjour, je m'appelle Reis et j'ai travaillé avec le groupe qui a fait des recherches sur l'écologie.
Donc bonjour, je m'appelle Mayana et moi aussi j'ai également travaillé sur le thème de l'écologie et notamment sur les liens de fraternité dans cette organisation.
Donc moi c'est Médic et j'ai également travaillé avec Mayana et Reis dans l'écologie. Et donc merci à vous. Entrons maintenant dans le cœur du sujet avec notre première thématique. Commençons par quelque chose qui nous concerne tous au quotidien. Aujourd'hui, pour beaucoup de démarches, des démarches administratives, tout se passe sur Internet. Mais cette évolution est souvent présentée comme plus rapide, plus simple et plus pratique. Cependant, cette numérisation généralisée pose aussi certaines difficultés. Tout le monde ne possède pas forcément les mêmes compétences numériques, le même accès à Internet ou le même équipement informatique. Certaines personnes âgées, isolées ou vivant dans des zones mal desservies peuvent rencontrer des obstacles importants. C'est pourquoi votre problématique, Salomé, soulève une question particulière qui est intéressante et actuelle. Donc cette question est, est-ce que la dématérialisation des services publics entraîne un recul de l'adelphité? Autrement dit,
Est-ce que cette évolution risque de fragiliser la solidarité et l'inclusion entre les citoyens? Et donc, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce problème?
Donc déjà, on peut affirmer que près de 44% des Français disent avoir du mal avec les démarches administratives sur Internet. Environ 82% des démarches sont maintenant numérisées. Donc oui, je pense que la dématérialisation des services publics pose un vrai problème, même si elle a aussi certains avantages. Aujourd'hui, beaucoup de démarches se font en ligne, comme tu l'as dit, Mehdi. Par exemple, faire une démarche à la CAF, envoyer des papiers à France Travail, déclarer ses impôts, prendre un rendez-vous administratif, ou même refaire certains documents. Sur le papier, c'est pratique parce que ça va plus vite et on peut le faire à n'importe quelle heure, mais en réalité, ce n'est pas aussi simple pour tout le monde. Par exemple, une personne âgée qui n'a pas l'habitude d'utiliser Internet peut vite se retrouver bloquée. Elle peut ne pas savoir créer un compte, ne pas comprendre ou cliquer, ou même oublier son mot de passe. Pareil pour une personne qui n'a pas d'ordinateur, pour des personnes isolées, qui habitent en zone blanche par exemple, donc un endroit où Internet passe mal. Dans ce cas-là, la démarche qui devait être plus simple devient de plus en plus compliquée, et c'est vrai que c'est compliqué de trouver de l'aide. On peut aussi penser aux personnes en situation précaire. Si quelqu'un n'a pas les moyens d'acheter un ordinateur, une imprimante ou même de payer une bonne connexion Internet, il est déjà en difficulté avant même de commencer sa démarche. Par exemple, pour certains dossiers, il faut scanner des documents et les envoyer en ligne. Donc pour une personne, ça peut donc provoquer une certaine forme de précarité et donc forcer à l'isolement et donc les mettre en difficulté, comme je l'ai dit. C'est là qu'on voit le problème du contact humain. Avant, il y avait donc plus souvent un guichet, un agent, une personne qui pouvait expliquer clairement et vérifier les papiers. Aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent seuls face à un écran avec des messages automatiques ou des formulaires compliqués. Donc je pense que c'est un vrai recul parce qu'un service public, ce n'est pas seulement un site internet, c'est aussi une présence humaine. Et donc comme je l'ai dit, cela touche particulièrement les personnes âgées, isolées ou les personnes qui ont peu de diplômes ou qui ne maîtrisent par exemple pas bien le français. Et donc ce n'est pas seulement un problème technique, c'est aussi un problème social. Donc on parle de fracture numérique, mais au fond c'est aussi une fracture humaine et c'est là que l'idée d'adelphité est importante parce que l'adelphité pour moi c'est la solidarité, l'entraide et le fait de ne pas laisser quelqu'un de côté. Donc si on veut vraiment être dans un esprit là, il faut garder le numérique, mais pas seulement le numérique, il faut aussi quelques solutions concrètes pour rendre accessible à tous cette numérisation des services publics.
Donc si je peux approfondir l'excellent constat de Salomé, il faut s'appuyer sur des chiffres concrets. Le rapport du Défenseur des droits, publié en 2022, dresse un bilan social particulièrement alarmant de cette transition. L'État a consenti à des efforts financiers massifs, notamment à travers 908 millions d'euros du plan France Relance pour moderniser les réseaux. Mais techniquement, c'est qu'une égalité de façade. En réalité, la couverture Internet s'effondre à seulement 30% dans les zones de montagne et dans les zones rurales, contre 80% en ville. On parle ici de zones blanches, comme tu l'as bien souligné Salomé, où les citoyens sont structurellement abandonnés face à leurs écrans. Le rapport casse également un immense cliché, donc le mythe des « digital natives ». Donc les digital natives, c'est l'idée que du coup les jeunes générations, puisqu'elles ont grandi dans cette ère numérique, elles seraient plus aptes à effectuer les démarches en ligne. Sauf que c'est pas vrai, utiliser un smartphone pour les loisirs ou même pour regarder un film, ça prépare absolument pas à remplir un dossier complexe de France Travail ou de la CAF. Et en fait le résultat c'est qu'en 2022, 35% de la population, soit plus d'un tiers des Français, rencontraient des difficultés majeures avec le numérique. Et ce chiffre est figé depuis 2019, ce qui montre un peu l'échec de la politique de l'État. De plus, les administrations utilisent des indicateurs de satisfaction biaisés, comme la plateforme « Je donne mon avis ». Mais comme le dénonce le rapport avec ironie, « Je donne mon avis si je réussis ». Et du coup, on ignore totalement la détresse de ceux qui échouent dès la première étape. Et au nom de la modernisation, on détruit l'adelphité en éliminant la solidarité humaine et le contact qu'il peut y avoir au guichet.
Et justement, si on n'a pas le même accès à ces droits de base sur Internet, comment on peut se sentir concerné par les grands enjeux comme par exemple l'écologie?
Alors aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de s'inquiéter de la fin du monde si sa préoccupation première c'est sa fin du mois ou ses démarches administratives bloquées. Quand une personne ne sait pas comment payer son loyer, remplir son frigo ou accéder à ses droits, il est normal que la protection de l'environnement ne soit pas sa priorité immédiate. C'est pour cette raison que l'injustice sociale et l'injustice environnementale sont profondément liées. D'ailleurs, selon plusieurs études, les populations les plus modestes sont souvent les premières les plus touchées, comme par exemple avec la canicule, les inondations, la hausse du prix de l'énergie ou encore les pollutions. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé estime que la pollution de l'air provoque environ 7 millions de décès prématurés chaque année dans le monde. Pourtant, ce sont les populations les plus vulnérables qui sont les plus exposées. L'écologie ne doit donc pas être élitiste, elle ne doit pas être réservée à ceux qui ont les moyens financiers de consommer différemment ou de rénover leur logement. Au contraire, elle doit être inclusive et accessible à tous. Une transition écologique réussie est une transition qui prend en compte les réalités sociales de chacun. Sinon, on risque de créer davantage d'inégalités au lieu de les réduire.
Donc, heureusement, sur le terrain, des personnes s'organisent afin de réinventer cette solidarité. Nous allons maintenant passer aux solutions. Donc, Badr, Mélisse et Salomé, avez-vous enquêté auprès d'un acteur majeur dans l'inclusion numérique?
Oui, tout à fait. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Emmaüs Connect, une association. Lors de cette rencontre, j'ai découvert que leur travail consiste surtout à accompagner les personnes qui ont des difficultés avec les outils numériques. Concrètement, Emmaüs Connect organise des ateliers où des personnes apprennent à utiliser des ordinateurs et des téléphones, à créer une adresse email, à envoyer des mails et à faire différentes démarches administratives. L'objectif est de les rendre plus indépendants et autonomes dans leur vie quotidienne. L'association aide aussi ces personnes qui n'ont pas accès au matériel numérique, comme en a parlé Salomé précédemment. Elle peut leur proposer des téléphones, des ordinateurs reconditionnés ou des offres internet et téléphoniques à des tarifs solidaires. Ce qui m'a le plus marqué pendant la rencontre, c'est que l'accompagnement est très personnalisé. Les bénévoles et les salariés prennent le temps d'expliquer et d'aider chaque personne selon leurs besoins. Ils ne se contentent pas seulement de fournir du matériel, ils apprennent aussi aux personnes à l'utiliser. Les actions d'Emmaüs Connect permettent donc à des personnes en difficulté de rester connectées, d'accéder à leurs droits, de chercher un emploi ou simplement de communiquer avec leurs proches. Cette rencontre m'a donc permis de comprendre que l'accès au numérique est aujourd'hui essentiel et qu'Emmaüs Connect joue un rôle important pour aider les personnes qui en sont éloignées.
Ce rôle important d'Emmaüs Connect, c'est justement ça qui nous a poussé à les contacter. Parce qu'en lisant le rapport, on s'est rendu compte qu'on assiste à ce qu'on appelle une externalisation numérique forcée. Donc en gros, l'État ferme ses guichets, se décharge de ses responsabilités et transforme toute la charge sur l'usager. On devient des sortes d'agents administratifs bénévoles. Et si on fait une erreur de clic sur un site, c'est nous qui sommes. C'est la personne qui est sanctionnée ou qui perd par exemple ses allocations. Et c'est en aucun cas l'administration qui est sanctionnée. Du coup, l'État se repose sur la solidarité privée. Ce sont des associations comme du coup, Emmaüs Connect, mais comme plein d'autres, qui se retrouvent à faire le travail des fonctionnaires gratuitement. Et heureusement, du coup, qui sont là pour recréer le lien et de l'entraide par les formations qu'ils proposent.
C'est vrai que dans notre groupe, on a aussi poussé l'idée plus loin en se posant la question de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA peut aider? Alors oui, si une association développe une IA pour uniformiser les réponses et simplifier les textes administratifs, ça peut guider les gens. Mais il y a aussi une limite énorme. Une IA, ça n'a pas d'empathie. Un robot ne pourra jamais remplacer la chaleur humaine d'un bénévole ou d'un conseiller qui rassure la personne quand elle a peur de perdre ses droits ou quand elle a besoin de conseils. Donc si on met des IA partout, on va juste déshumaniser encore plus un système qui crée déjà une colère sociale énorme. Je rappelle qu'il y a un record historique de 115 000 réclamations auprès du défenseur des droits.
Et en fait, c'est là que je trouve que notre sujet rejoint exactement celui du groupe qui a travaillé sur l'écologie. Que ce soit pour la transition numérique ou pour la transition écologique, le piège est le même. Si on crée des systèmes pensés uniquement pour les gens connectés ou les plus riches, on met de côté les classes populaires et les personnes en difficulté. La Delphité, c'est s'assurer que personne ne reste sur le bord des routes. Du coup, je me tourne sur vous, le groupe qui a travaillé sur cette idée-là. Du coup, avec l'association CPIE Terre Toulousaine, comment ils font sur le terrain pour que leurs actions soient vraiment solidaires et inclusives?
Pour répondre à cette question, je pense qu'il est important d'en savoir d'abord plus sur cette association. Tout d'abord, elle ne s'est pas toujours appelée comme ça. En effet, le CPIE Terre Toulousaine a été créé en 2001 sous le nom de l'association Reflet. Et ce n'est que 15 ans plus tard, donc en 2016, que l'association a changé de nom après avoir été labellisée CPIE. Le label CPIE, qu'est-ce que c'est? Cela désigne les centres permanents d'initiative pour l'environnement. C'est donc une distinction accordée aux associations engagées dans le changement environnemental qui rassemble aujourd'hui plus de 80 structures en France. Le CPIE Terre Toulousaine a pour mission d'accompagner et de faciliter le déploiement d'initiatives et démarches en faveur de l'environnement à Toulouse, qu'elles soient portées par des collectivités, des associations, des établissements scolaires ou encore des entreprises. Cet accompagnement s'intègre généralement dans des politiques publiques et se matérialise par du soutien méthodologique, de la formation, de la mise en relation d'acteurs ou encore de l'appui au développement de dynamiques. Face au changement climatique et à l'effondrement de la biodiversité, pour accélérer la transformation écologique et sociétale, le CPIE s'engage à accomplir diverses missions, comme accompagner les générations futures dans leur cheminement vers une conscience environnementale et une action responsable, co-construire et accompagner les politiques publiques liées à la transition écologique, structurer et développer un réseau d'acteurs engagés pour favoriser la coopération et l'échange de bonnes pratiques, faciliter les initiatives collectives en encourageant la participation active des entreprises, des collectifs professionnels et des habitants, militer pour une éducation et une culture environnementale qui habilite chaque individu à agir en faveur de l'environnement, mais également à favoriser le développement de méthodes innovantes pour démultiplier les actions environnementales. Qu'on soit une jeune personne, une personne âgée, à l'école ou pendant les vacances, dans notre quartier ou au travail, nous sommes tous concernés par l'environnement un jour ou l'autre. Le CPIE s'attache à proposer à chacun un cadre de découverte et de pratique qui favorise la connaissance et la compréhension de notre environnement proche et la nécessité de préserver les milieux et les ressources. Sur un temps court ou en plusieurs séances, les activités proposées interrogent notre responsabilité individuelle et collective et mobilisent le pouvoir d'agir de chacun. Cette association fait en sorte d'inclure tout le monde en mettant en place plusieurs activités telles que des balades découvertes en ville ou dans la nature, des ateliers de fabrication, par exemple la fabrication de savons artisanaux ou de jardinières, ou encore des conférences et des stands thématiques pour un public adulte ou familial sur plusieurs thèmes comme la biodiversité mais également l'impact du numérique. D'ailleurs, en parlant de ça, l'association met en place des outils pour prendre conscience que la dématérialisation ne l'est finalement pas tant que ça. Le CPIE Terre Toulousaine met en place des stands qui donnent matière à réflexion autour d'outils interactifs comme des appareils électroniques à disséquer pour observer la diversité des matériaux qui les composent ou encore une fresque à reconstituer pour découvrir les impacts environnementaux d'un téléphone au cours de sa vie, de l'extraction des matières premières à son recyclage. Et en plus de ces activités, des conférences ont lieu abordant ce sujet et les solutions pour réduire l'impact du numérique sur la planète. Toutes ces actions sont déjà une forme d'entraide en soi, mais je vais laisser la parole à mon camarade pour qu'il rajoute quelques mots.
Alors, lorsque nous avons rencontré cette association qui est engagée dans l'écologie solidaire, nous leur avons demandé comment ils intégraient les personnes venant de milieux différents ou en difficulté. Ils nous ont expliqué que pour construire une écologie réellement solidaire, il fallait d'abord lutter contre les inégalités au sein du même groupe. Chacun doit pouvoir participer, peu importe son âge, son origine ou ses moyens financiers. Ils nous ont également expliqué que l'écologie permet de créer du lien social. En effet, elle rassemble les personnes autour d'objectifs communs. Cela peut passer par des jardins partagés, des ateliers de préparation, des opérations de nettoyage, des actions de sensibilisation ou encore des projets de compostage collectif. Ces initiatives permettent aux habitants de se rencontrer, d'échanger et de travailler ensemble. Par exemple, en France, plusieurs milliers de jardins partagés existent aujourd'hui dans les villes et les quartiers. Ils permettent non seulement de produire des fruits et légumes, mais aussi de lutter contre l'isolement et de renforcer la solidarité entre voisins. Ainsi, l'écologie devient un moyen de créer de la cohésion sociale. C'est justement cela que représente l'Adelphité. C'est agir ensemble à égalité dans un esprit de solidarité. L'Adelphité dépasse les différences et encourage à chacun à participer à la construction d'un avenir commun. Elle repose sur l'idée que personne ne doit être laissé de côté.
D'après toi, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux jeunes de notre âge pour changer les choses ?
Je pense qu'il faut comprendre que l'écologie et le social ne sont pas deux combats différents, c'est le même combat. On ne peut pas protéger durablement notre planète sans lutter contre les inégalités et inversement. Chacun peut agir à son échelle, rejoindre une association, participer à une action de quartier, aider une personne qui rencontre des difficultés avec les outils numériques, partager ses connaissances ou simplement soutenir ses voisins sont déjà des gestes importants. Selon le ministre de la vie associative, près de 20 millions de Français sont engagés dans une association. Cela montre que l'engagement collectif peut avoir un impact réel sur notre société. Finalement, l'Adelphité, c'est comprendre que nous sommes tous concernés et que chaque action compte. En agissant ensemble, avec solidarité et respect, nous pouvons construire une société plus juste, plus humaine et plus respectueuse de l'environnement.
Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Raïs. Au final, ce projet de MC nous montre bien que l'Adelphité, ce n'est pas juste de la théorie. C'est une pratique de tous les jours. Quand le rapport, par exemple, dénonce l'exemple des points d'arrêt non gérés, dont tu as parlé précédemment, Salomé, donc du coup, pour expliquer un peu, c'est dans le Gard, enfin, c'est l'idée que dans les gares, on ferme de plus en plus les guichets et du coup, les gens se retrouvent sans possibilité d'acheter un ticket alors qu'ils doivent aller au travail. Et du coup, cela entraîne le stress des usagers et une amende quasi systématique. Et du coup, ça montre bien que supprimer l'humain, c'est aussi supprimer la solidarité et supprimer le repère de millions de Français.
C'est vrai que moi, je trouve que pour notre génération, le défi, il est là. Faire vivre la Delphité aujourd'hui, c'est refuser l'isolement que nous imposent parfois les écrans et s'engager, même à notre échelle, pour que le progrès technique et l'écologie marchent main dans la main avec la justice sociale.
Magnifique mot de la fin, Salomé. Je vous remercie d'avoir suivi cette table ronde. Un grand merci aux intervenants pour la qualité de cet échange.
Et nous remercions aussi les personnes qui nous ont permis de réaliser ce projet, notre professeur, Canal Sud. Et nous vous conseillons aussi de penser, dans votre vie de tous les jours, à être solidaire.
Ben bravo, merci beaucoup. Super, on a un nouveau gouvernement. Bravo. Eh bien, merci. En plus, dans les temps, c'est vraiment nickel. C'était très bien. Je n'ai même pas de questions à vous poser, parce que vous avez tellement développé les idées que c'est super.
Retrouvez le podcast de l'émission sur le site de Canal Sud, www.canalsud.net.